Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. On mars arrive à grands pas.
Oui, tout à fait.
C'est pas comme si ça faisait longtemps qu'on était en février, mais on a eu quoi, 5 émissions en février? C'est assez impressionnant quand même.
Quand même, je les ai pas comptées, ça passait tellement vite.
C'est incroyable. Donc, bienvenue à cette émission de Cinébrunch, votre magazine de cinéma qui s'assume en compagnie de Jim Boulay et de Mélina Lopez-Nado.
Oui,
et
bonjour.
De François Genet.
Oui, bonjour.
Voilà, bonjour à tout le monde.
Voilà, les présentations sont faites.
Ben voilà, et pour ceux qui joignent à nous, évidemment, toujours le classique, Cinébrunch, qu'est-ce que c'est? C'est donc une émission où on discute de cinéma, c'est une émission dans laquelle on fait des critiques de films, c'est une émission dans laquelle on fait parfois des débats, des quiz qui, parfois, ne me mettent pas du tout en valeur, mais dans tous les cas...
On a beaucoup de plaisir.
Exactement. En voilà. Votre compagnie, chers auditeurs. Donc, ben c'est ça, c'est parti. Donc, cette semaine, quand même un programme assez...
chargé.
Oui.
Quand même.
Je pense que c'est le mot. Tellement chargé que, François, t'as été voir le film...
Ordinary Love ou L'amour, tout simplement.
Tout simplement. Voilà. Mélina, t'as été voir un autre film.
Un portrait de la jeune fille en feu, le film français. Oui.
Et j'ai été voir de mon côté Fahim, un autre film français, cette fois-ci avec Gérard Depardieu. Donc, tout ça un peu plus tard dans l'émission, parce qu'on a quelques nouvelles avant à vous parler, pour ne pas dire beaucoup. Donc, voilà, on va tourner en rond. C'est une nouvelle... c'est une idée que Mina a eue cette semaine de nous faire tourner en rond.
Ouais, fait que là, présentement, vous ne le voyez pas, mais on tourne à l'entour du micro.
Exactement.
Non, c'est pas ça le concept.
Les microcasts, c'est pratique.
Oui.
Alors, voilà. Ben, tiens, commençons tout de suite par toi, Mina.
Oui, ben, en fait, moi, j'ai envie de vous parler du tournage du film La Matrice 4. Parce qu'en fait, ils viennent de terminer la portion de tournage qui se déroulait à San Francisco, donc vous savez, la ville aux États-Unis. Mm-hmm. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont laissé leur marque dans la ville parce qu'il semblerait qu'ils tournaient donc avec des hélicoptères qui volaient très, très bas, des voitures qui revolaient et beaucoup d'explosions. Et donc, des vraies explosions. Et ces explosions-là ont fait fondre le plastique de panneaux d'avertissement sur la rue et également des poteaux de lampadaire.
OK, c'est vraiment extrême. C'est pas du CGI, Matrix. Attention,
non, c'est pas du CGI.
Wow. C'est tout vrai.
Oui, et c'est tout vrai. Donc, c'est ça m'a fait bien rire. On peut voir les images sur Facebook. Là, on voit carrément l'explosion. On sait pas ça va être quoi dans le film, mais c'est ça. Les gens trouvent ça très drôle dans la ville. Ils disent tant qu'ils payent les dommages,
voilà.
Ça les importe peu. Ils sont habitués, je pense.
Fun. Hey, le voisin vient d'exploser. La belle zone du voisin vient d'exploser. C'est un peu étrange.
Il y a une fille qui disait qu'elle était dans son bureau et elle dit l'hélicoptère volait vraiment bas, puis là, j'espérais qu'il n'était pas en train de faire quelque chose à la Die Hard.
Ah ouais, OK. Effectivement. On dit là, c'est de la réalité, mais faut pas charrier.
Non, c'est ça.
Ah ben, je suis étonné. C'est drôle, ça fait suite drôle. J'avais parlé justement de ce film-là il y a une semaine ou deux, mais OK, je savais pas que c'était rendu à ce point-là.
Le retournage est quand même intense, mais peut-être que les coûts de CGI vont baisser, on le sait pas. Je sais pas. Est-ce que ça coûte moins cher de vraiment détruire dans la vraie vie une ville ou de le faire au CGI?
Je sais pas, mais s'il faut reconstruire, c'est ça.
Oui, c'est ça. Une petite prime, faudrait calculer.
Mais ça doit être divertissant de vivre dans ces films, dans ces villes-là où il y a beaucoup de films qui se tournent, parce que ça doit être fréquent que tu arrives, tu vois des choses, des
scènes
où que tu peux pas te parquer parce
New York, Toronto, Montréal, Lennoxville.
Oui, tout à fait.
Très impressionnant.
Tout à fait. Mais ça doit être spécial quand tu essaies de dormir, puis il y a juste genre, un lapadaire qui est en train de fondre dehors.
Des explosions.
Des explosions, puis tout à fait. Ouais. Ça doit être festif.
Très, très festif. Tout François?
Ben, continuons dans la festivité.
Bon.
Tout à fait.
Quel beau lien.
Est-ce que tu aimes les trains, Jim?
Ben, pas autant que Sheldon, mais oui, j'aime bien les trains.
T'aimes bien les trains? Eh bien, tu es la personne parfaite pour ma nouvelle, en fait.
Ah oui?
Oui, ben, il y a une...
C'est un quiz?
Non.
Sur les trains?
Non, ben, en fait, il y a une exposition de trains ayant servi de décor ou de lieu à Expo Rail, ayant servi de décor dans des films.
Wow!
OK.
Voilà, donc...
C'est où, ça?
C'est à Saint-Constant, à Expo Rail.
C'est une drôle de période pour l'industrie ferroviaire. Mais,
donc, okay. C'est au musée ferroviaire canadien. J'ai dit ferroviaire d'une façon un peu... Oui, je ne sais pas pourquoi.
Ça faisait québécois.
Ça faisait québécois, voilà. Alors, faut apprendre quand même que pour souvent, des fois, ajouter de l'ambiance d'un tramway, que ce soit à Montréal, à Brooklyn ou peu importe, donc dans des films de Maurice Richard, Ma vie en cinémascope, ce genre de choses-là, des fois, la Bolduc...
On met des trains.
On met des trains. Et là, on peut maintenant... Les visiter. Wow. Alors, du 28 février au 26 avril prochain, vous pourrez aller visiter ça à Saint-Constant, au musée ferroviaire canadien.
Les trains de films.
Est-ce qu'ils ont déménagé l'Orient Express pour l'occasion?
Oh, je sais pas. Ils n'ont pas marqué tout
c'est
ce
compliqué
qu'il y avait,
parce qu'il faut les amener par bateau. Hein, c'est la complexité.
Ben, tout à fait, tout à fait. Mais donc, voilà. Alors,
fort intéressant. C'est bien.
Tu es complètement déconcerté par la nouvelle.
Je n'entendais pas ce genre de nouvelles-là, mais c'est correct. on en parlera après. non, c'est vrai. Merci, François. De mon côté, je vous parle de James Bond 007. Bon, le nouveau James Bond qui s'en vient en ville, mais j'en parle pas directement. Ça va arriver en avril. Oui. On a tous très hâte. C'est probablement ou pas le dernier James Bond avec Daniel Craig. Donc, un film qui s'annonce quand même assez intéressant. Et déjà, la chanson thème du film, qui est interprétée par la chanteuse Billie Eilish, qui est une révélation des Grammy Awards, cartonne totalement des millions d'écoutes en l'espace de quelques heures seulement. Et je vous propose d'en écouter un extrait. You were my life, but life is far away from fame. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I'd fallen for a lie? You were Je ne sais pas si vous aimez ça, mais c'est donc le thème du nouveau James Bond.
Oui, moi, je dis qu'on devrait continuer avec la petite toune de même en background en toute l'émission.
Ça aurait été bien, mais mon extrait était trop court.
Malheureusement.
Sûrement, ça améliorerait notre auditoire. Hein. Je pense que l'auditoire resterait plus longtemps.
Ben, on ne sait pas, peut-être. Qui sait?
Mais c'est vrai, hein, ça me rappelait beaucoup la chanson d'Adèle, dernier James Bond.
En fait, Adèle aussi.
Skyfall?
Oui. Ben, ils essaient tout le temps d'aller chercher des gens dans leur période, dans leur peak, en fait. On dirait, pour James Bond, ils sont très là-dedans. Justement, ils vont chercher des gens qui sont vraiment.
Oui, puis on garde quand même un son qu'on reconnaît. C'est ça que je trouve intéressant aussi, même si on change d'artiste.
Même si on trouve un peu la couleur de l'artiste quand même. Mm-hmm. Il y a quand même une.
Mon espoir d'avoir Mitsu pour faire la prochaine chanson vient de tomber à l'eau selon ton algorithme.
Ben, pour l'instant, oui, je pense que ça. les chances sont pas de ton côté, Jim.
C'est ça. Moi, pour être honnête, j'ai préféré celle d'Adèle, tout simplement. Mais
c'est à voir dans le film comment ça va être utilisé aussi.
Oui, ça va être utilisé dans le générique du début et dans le générique de fin.
Oui, c'est généralement bien.
Avec les images, comment ça va être. Tout ça va créer des moments.
Peut-être que tu vas comprendre, Jim, en voyant le film.
J'espère bien. Et j'ai pas fini de parler de James Bond, en fait, parce que, en fait, plus étrange encore, il y aura un produit dérivé du film qui va sortir probablement, on suppose, en même temps ou un peu après la sortie du film. C'est des espadrilles de la marque Adidas, donc les espadrilles 007, qui sont donc un peu plus foncées. Elles sont assez foncées. Il y a le logo sur le talon 007. Bon, il n'y a pas de date de prix encore. Ça risque d'être assez cher, parce que c'est sans doute des espadrilles de luxe.
Mais James Bond met des Adidas dans le film?
Moi, j'imagine... j'ai pas vu le film, il n'est pas sorti, mais j'imagine difficilement James Bond porter ça.
Mais c'est ça,
mais rien qui dit qu'ils ne s'entraînent pas avec ça ou qu'ils vont pas faire un placement de produit.
Parce que lui, il est souvent habillé chic quand même.
C'est plus des souliers, normalement.
Ouais, c'est ça. Mais peut-être, pour le prix, moi, je suggérerais 700$. C'est 007 à l'envers pour ceux qui n'ont pas suivi.
007, ça serait bien quand même.
Oui, ben non, je pense que Adidas serait pas content. Là.
Ouais, c'est ça le problème. Hein?
Ouais, c'est ça. Bref, 7 sous. Non, ça va pas fonctionner.
Donc, c'est ça pour James Bond. Mélina, t'as autre chose pour nous?
Oui, en fait, une nouvelle qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ça sur les internets cette semaine. Vous connaissez l'émission très populaire de Bachelor, donc qui est traduite généralement par le célibataire en français. Donc, une émission style télé-réalité où, bon, il y a un homme, puis là, il y a des femmes, puis là, il élimine des femmes pour finir par en choisir une. Bref, c'est une une émission qui fonctionne très bien, qui joue sur ABC depuis 2002, donc 18 ans. Il y a au moins déjà 8 spin-offs qui ont été faits et il semblerait qu'il y en a un nouveau en préparation, selon une publicité qu'il y a eu de recrutement, donc, et il semblerait donc...
C'est beaucoup de dons, dans ton histoire.
Oui, beaucoup de dons.
Mais ça semble quand même être une bonne source si c'est un truc de recrutement.
Recrutent pour ça, mais c'est qu'ils n'ont pas dit encore, mais ils ont juste dit dans la publicité... par le producteur de Bachelor, mais ils n'ont pas officiellement dit annoncer un nouveau show.
Ça pourrait être un autre type d'émission.
Oui, mais c'est, ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui sont dans l'âge d'or et qui recherchent l'amour.
Donc, ah, bon, mais voilà.
Oui, fait que je pense qu'il y a une nouvelle, nouvelle portion de la télé-réalité de rencontres amoureuses qui va peut-être s'ouvrir à nous dans les prochaines années, qui est ce créneau-là, dans le fond, des personnes âgées qui cherchent l'amour.
Tu vois, moi, je crois que je ne suis pas encore rendu dans le l'âge d'or parce que je ne dors pas assez, Jim.
Ah, bon, voilà. Écoute, on ne l'a pas vu venir, voilà. Celui-là.
Ah, mais, je sais, je sors de nulle part.
Mais
comme
à cause
ça,
de ça, tu vas attendre ton tour. Je vais passer ma nouvelle avant toi.
J'ai été puni.
Ben, c'est des choses qui arrivent. Ah. Donc, je veux revenir sur Parasite, le film
pas,
donc,
pas moi,
sud-coréen.
Okay, non, le film.
Non, l'autre.
l'autre
le film Parasite. Sacré François. Et donc, la semaine dernière, j'ai dit que malgré la qualité du film, je trouvais qu'il ne méritait pas nécessairement le titre du meilleur film de 2019. Parce que je trouvais qu'il y en avait des meilleurs, tout simplement. Je veux dire qu'en fait, je suis toujours d'accord sur ma position.
Ah, ben
ça
pertinent.
N'a pas du tout changé.
Ah, ben
mais par contre, il y a une autre personne qui partage ma position et je vous en fais écouter un extrait.
And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems with South Korea, with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. You know, I'm looking for like where Let's get Gone with the Wind. Can we get like Gone with the Wind back, please? Sunset Boulevard. So many great movies. The winner is from South Korea. I thought it was best foreign film, right? Best foreign movie. No, it was the Did this ever happen before?
Donc, vous aurez reconnu Donald Trump, le président américain, qui trouve que, même s'il n'a pas vu le film et qu'il ne sait pas s'il est bon, qui trouve que c'est un peu étrange que le meilleur film, visiblement, ne soit pas un film américain, si je peux me permettre de lui mettre les mots en bouche. Donc, voilà.
Ça nous a fait beaucoup rire autour de la table.
Oui, effectivement. Donc, bon, il dit plein de choses supplémentaires. Je n'irai pas dans les détails, mais en gros, c'est ça.
Il n'est pas content.
Non.
Il trouve ça étrange.
Oui, il trouve ça étrange.
C'est ça. Et il aimerait bien qu'on ramène autant d'apporte-vent.
Oui, ben c'est ça. Ben, non, mais à un moment donné, hein, c'est ça. C'est étrange. Ouais. Puis j'ai vu même la compagnie de films a retweeté ça, la compagnie qui distribue, je pense, aux États-Unis, là, qui a retweeté ça, le message de Trump. Puis il a dit évidemment, comme tu sais pas lire, puis comme il y a des sous-titres, tu pourras pas comprendre le film.
Ah!
Donc, non, il y a une petite guéguerre là, qui est partie.
Ok, ça ouvert quelque chose.
Oui, 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 tout à fait. Ouais. Mais c'est sûr que aussi, je pense que Trump puis la Corée, c'est peut-être pas l'amour fou déjà à la base.
Ben, il y a déjà, il a créé des liens avec la Corée du Nord qui est pas l'ami, disons, de la Corée du Sud, donc ça peut créer toutes sortes d'histoires.
Tout à fait. Donc, il y a peut-être ça aussi qui est en une petite coche de plus pour Trump.
Il y a quelque chose en moi qui me dit simplement, si ça avait été un film américain, il aurait rien dit, c'est juste parce que...
Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr.
Parce que c'est
sûr.
Le personnage,
son patriotisme.
Ben, effectivement, si ça avait été un film américain, il aurait rien dit, mais si ça avait été un film, tu sais, par exemple, ou qu'il n'y a pas d'histoire nécessairement avec Trump, là, ce qui est quand même rare à trouver parce qu'il réussit à trouver des histoires avec pas mal de pays, mais mettons qu'on prend l'Australie ou je sais pas trop, ben, peut-être qu'il y aurait peut-être moins monté sur ses grands chevaux, peut-être. Mm-hmm. Qui sait?
Qui sait?
L'histoire le sera peut-être jamais. Voilà.
Alors, l'histoire le sera jamais, effectivement. Peut-être celui qui l'a écrit, peut-être. On verra bien.
Qui sait?
Voilà. François?
Il y a des bons scénaristes partout. Oui, ben en
fait... Et de mauvais, oui.
Oui, des mauvais aussi. Faut chercher. Voilà. Donc, non, en fait, je trouve ça intéressant des fois d'aller plus profond dans les films et on a une petite nouvelle qui va là, qui nous fait découvrir des petites subtilités des fois qu'on voit pas dans les films.
Je suis vraiment curieux de ce que vous allez me lancer. Vous êtes plein de complicité, j'ai aucune idée de quoi vous parlez.
Oui, ben en fait, c'est que il y a des sources sûres. Dans le fond, le réalisateur de Star Wars le dernier des Jedi, les derniers Jedi. Le dernier Jedi, tout à fait. Qui a dit que Apple avait des petites conditions qu'il imposait afin de d'être capable de mettre les produits Apple à l'écran sur des plateaux de tournage.
Dans Star Wars, des produits Apple?
Non, mais non, en général, mais c'est, on parle en général.
C'est en général, dans tous les films. C'est le réalisateur de Star Wars qui est nommé Rian Johnson, qui a révélé ceci à travers son chapeau. En fait, il nous dit comme quoi qu'il n'y aurait aucun méchant qui aurait le droit d'avoir un iPhone à l'écran.
J'ai l'impression que ça doit être un peu comme ça pour un paquet de produits.
Ben oui et non, parce que ben je pense pas.
On veut que ce soit les héros qui utilisent les placements de produits, j'ai l'impression.
Oui, mais je pense pas que les iPhones sont considérés dans le placement de produits.
Ben en fait.
Ben sûrement, là, s'il y a une autorisation comme ça. Si on a un mot à dire.
Je veux dire, je pense pas qu'Apple paye pour mettre l'iPhone
Effectivement, en fait, il semble que les cinéastes soient assez libres de pouvoir utiliser puis de filmer avec ces produits-là, les produits Apple, ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres marques, en fait.
Ah, OK, donc, bon, je ne sais pas cette utilité-là.
Chez Apple, ça semble être assez. C'est peut-être aussi une raison pourquoi Apple, on en voit beaucoup dans les films. C'est peut-être pour ça aussi pourquoi on en voit beaucoup dans les films. Mais Apple se conserve quand même un droit de regard sur la façon dont est exploité leur produit dans les œuvres. Et donc, l'écran ne peut pas être détruit. Il ne peut pas avoir aucun défaut de mis de l'avant. Donc, évidemment, Apple veut vraiment que l'appareil soit présenté sous le meilleur jour possible, d'une manière qui soit vue évidemment favorablement par l'auditeur. Donc, c'est quand même assez, assez spécial. Puis évidemment, les iPhones sont toujours flambant neufs dans les films. Les téléphones cassés font généralement partie du monde Android. Ça sera pas des Apple quand quelqu'un va échapper son téléphone par terre. Et aussi, ça sera pas un méchant. Donc, si jamais vous voyez dans un film, tu dis, es-tu méchant lui? Et il y a un iPhone. Non, c'est pas un méchant.
Mais ça vient de révéler un paquet d'affaires.
Effectivement.
C'est ça qui est très intéressant.
Terrible, parce qu'ils n'ont pas le choix de changer ça, en fait, parce que là, ça vient de... Personne ne va oser donner des téléphones...
Apple, parce que ça vient de casser le suspense, tu sais, dans un film où
si
t'es pas
tu
n'es pas sûr.
Ben non, c'est ça. C'est comme si le professeur Rogue avait eu un iPhone, là.
Lui a dit il y a une couple de réalisateurs qui vont m'haïr parce que j'ai dit ça parce que là il y a des films que tu viens de déconstruire là, dans le sens aussi c'est un film de suspense puis il y en a un qui a un Apple dedans puis que tu dis mon Dieu, jusqu'à toute fin qu'est-ce qui va se passer
ça peut être quelqu'un qui est en apparence un méchant mais qui à la fin on se rend compte que c'est un bon, ça serait correct.
Peut-être.
On ne sait pas jusqu'où rend le contrôle.
Ben, encore là,
c'est poussé, là.
Il faut qu'Apple mette son hockey sur la patente.
C'est un gros contrôle de marque. Je ne sais pas si ça se fait parce que dans les films québécois, on en voit aussi des fois là, dans des productions québécoises, ils ont des iPhones. Est-ce que le contrôle de marque va se rendre jusque-là?
Peut-être que c'est juste pas contrôlé, en fait.
Est-ce qu'ils contrôlent plus, comme on dit, est-ce que c'est plus une entente générale? Puis dans les gros blockbusters, ben là, ils vont contrôler pour être sûr que l'image va avec ce qu'ils veulent. Je sais
avec
pas.
Le nombre de productions puis le nombre de personnes qui ont des iPhones qui utilisent dans leur production. Ça doit être difficile à tout contrôler. Vraiment impressionnant.
C'est quand même assez intéressant.
Ouvre toute une histoire. Moi, je pense qu'on devrait même faire quelque chose sur les placements de produits et ces choses-là éventuellement.
En fait, ça me donne le goût de revisionner certains films pour essayer de trouver des produits Apple puis essayer de voir comment on les met de l'avant. Pour vrai, parce que de dire justement comment on utilise ça, autant que ce soit le côté méchant, mais aussi le côté c'est vrai, dès que c'est un téléphone qui est cassé, c'est pas un iPod, c'est pas un iPhone.
J'essaierais de l'oublier pour justement pas avoir cette...
Pas tout le temps, mais juste revenir rapidement, juste pour essayer de voir. Puis après ça, évidemment, il faut essayer de l'oublier quand on va voir des films pour le plaisir.
De toute façon, toi, tu regardes que les bandes annonces.
J'essaie de trouver dans les bandes annonces quelque chose.
Ça me rappelle le film qu'on a vu il y a pas longtemps, je sais pas si tu vas t'en souvenir. Jim, c'est le film dont tout se passait à travers des communications, un ordinateur portable, un téléphone, c'est une histoire de meurtre. Dans le fond, tout se passait à travers l'écran.
C'est un Asiatique, je pense. C'est une histoire asiatique.
Mais ça soulève la question aussi dans des films comme ça, puis les portables, est-ce que la même image est demandée pour les Mac, les Magas?
Il y a sûrement une clause qui fait que si tu payes, probablement que là, tu peux faire ce que tu veux, en tout cas. Peut-être. Mais tout ça est intéressant, on reviendra sur ça éventuellement, mais sinon, c'est déjà le moment. C'est déjà tout pour les nouvelles.
Ça passait tellement vite.
Je vois la déception dans tes yeux. Mais voilà, c'est pas grave, c'est le début de cette émission de Cinébrunch.
We'll be right back.
Et voilà, Mélina, tu as été voir pour nous.
Le film.
Donc, j'ai oublié le nom encore une fois, oui.
Le portrait de la jeune fille en feu.
Oui.
Donc, c'est le portrait qui est en feu, c'est pas la jeune fille. Quand même, ça vaut la peine
Oui, c'est bien de spécifier, tout à fait.
Mais en fait,
c'est vraiment étrange comme
formulation. Ça porte à confusion, en fait. Oui. Je sais pas trop. Bref, donc, un film français écrit et réalisé par Céline Sciamma et les deux actrices principales, donc Noémie Merlant et Adèle Haenel. Qui jouent respectivement le rôle de Marianne et de Héloïse. Le film se passe en 1770 et c'est l'histoire de la jeune peintre Marianne qui débarque sur une île bretonne pour faire le portrait de Héloïse. Donc on va aller écouter tout de suite la bande-annonce.
Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage.
Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte?
Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours.
Elle pense que je suis là pour la surveiller.
Et vous, vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière?
Alors, une bande-annonce sans musique, c'était quelque chose d'assez rare aujourd'hui.
Assez rare, mais ça représente très bien le film parce que c'est un film où il y a très peu de musique.
Ah oui?
Il y a une chanson, en fait, qui est juste placée de façon toujours très symbolique dans le film. Je vais y revenir. Mais c'est un film très particulier pour ça. Donc, on comprend vraiment avec la bande-annonce, je crois, le contexte du film. Donc, elle s'en va pour peindre le portrait d'une jeune femme qui doit marier un homme. Donc, c'est pour envoyer à l'homme pour qu'il approuve s'il va l'épouser ou non. Donc, ça, c'est suite au décès de sa sœur.
C'est l'équivalent de Tinder à l'époque.
Exactement, en fait. Donc, voilà, elle est engagée pour prendre un selfie. non, mais c'est ça, elle doit faire la peinture. Mais donc, comme elle dit, sa fille a déjà épousé un autre peintre puisqu'elle ne voulait pas révéler son visage parce qu'elle ne veut pas se marier nécessairement avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. On peut quand même la comprendre là-dessus. Et donc, elle doit agir un peu comme si elle était sa dame de compagnie, l'observer et peindre le soir en secret dans sa chambre. Donc ça, c'est un peu le thème du film. C'est très intéressant. Voilà, qu'est-ce que je dirais? Je vais y aller tout de suite dans ma critique parce que ce film-là, c'est un film dont la construction du visuel est basée sur la symbolique. Et par opposition à plusieurs films qu'on voit où le visuel va être construit sur la cohérence. Donc, je ne sais pas si vous saisissez la nuance que je veux apporter un peu.
Ça va prendre un petit peu de détails.
Ça va prendre un peu de temps. Alors, la majorité des films, généralement, on construit une histoire et le visuel, ce qu'on va voir, l'image, comment elle va être construite, ça va être dans un but de cohérence.
Donc, oui. Avec ce qui se passe, avec l'action.
Avec ce qui se passe, exactement. Okay. Alors que dans ce film-là, la construction n'est pas faite comme ça. La construction est vraiment basée sur la symbolique et le but est que tout. J'ai l'impression, du moins, c'est que tout soit symbolique. Fait que l'absence de musique est symbolique, mais tout ce qui va être mis dans le cadre va être symbolique. Mais encore plus, la nature qui va être mise en arrière, tout ça, on peut aller chercher de la symbolique de façon très profonde dans ce film-là. Ce qui fait que pour un spectateur, un auditeur qui va vouloir voir un film pour se détendre, et on en reparlera un jour parce qu'il y a 100 raisons de voir un film, et même plus que ça.
Oui, tout à fait.
Mais pour quelqu'un qui voit un film pour se détendre, c'est pas un film pour se détendre.
Il faut que tu analyses puis que tu essaies de trouver le deuxième niveau.
Oui, parce que c'est ça la beauté de ce film-là.
Ouais.
Si tu passes pas, si tu remarques pas ces détails-là, si tu remarques pas cette attention-là, tu passes à côté du film et j'ai l'impression que ça peut paraître comme étant un film plate. Mais c'est là que c'est important, c'est que la beauté de ce film-là est à chaque fois que tu regardes une image, puis tu comprends, puis tantôt quand je montais la bande-annonce pour l'émission, j'ai revu une scène et j'ai compris en voyant la scène quelque chose que j'avais pas vu dans ma première écoute, qui est encore une symbolique très 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 précise, c'est-à-dire elle met un portrait, le portrait prend en feu.
C'est symbolique avec le titre du film.
Oui, non, mais c'est même
très
pas
fort,
ça.
Jim, très
c'est
fort.
Comment elle va faire brûler la chandelle, elle va le porter directement à un endroit précis sur le corps et c'est là que ça pogne en feu. Et là, quand tu connais le film, tu comprends que tout ça est réfléchi, que chaque action est réfléchie. Et donc, c'est plus que le visuel qui est construit, mais c'est vraiment tout ce qui est dans le film. Tout est réfléchi. Un petit truc qu'on va dire qui va payer très, très plus loin.
Tout est ficelé ensemble.
Oui, mais c'est symbolique.
Donc, est-ce que c'est un film qui vaut la peine d'être revu, dans le fond, d'être vu plusieurs fois pour mieux comprendre le film, justement? Parce qu'à une première écoute, des fois, ça doit être difficile de tout comprendre, j'imagine, puis de catcher tout. Là.
Surtout si on n'est pas dans ce mode-là. Et c'est peu, moi, quand j'ai commencé le film, j'étais...
C'était un peu fatigué
J'étais pas là-dedans, j'étais pas nécessairement dans une écoute active de recherche de symbolique, de profondeur. Et c'est vraiment un film que c'est ça. Donc c'est pour ça que moi, je ferais une deuxième écoute de ce film-là, justement, parce que je sais que j'en ai raté plusieurs et que c'est vraiment ça qui est beau dans ce film-là. C'est tous ces contrastes-là, c'est tout ce qu'on réussit à exprimer et qu'on ne voit pas. Mais pour ça, ça requiert, selon moi, une écoute vraiment différente du film.
Eh bien, c'est intéressant.
Intéressant.
Et bon, donc là, tu dis, oui, c'est un film à revoir, tout ça, mais est-ce que tu l'as apprécié?
J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que vraiment, et je vais me répéter, mais c'est ce qui est beau dans ce film-là. L'histoire est belle, l'histoire est intéressante. Je veux pas te dévoiler trop l'histoire, mais tout est dans la subtilité, une beauté là-dedans. Est-ce que tout est... Et même, comme tu me disais dans la bande-annonce, le son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de silence. Je parlais avec quelqu'un qui a vu le film et qui m'a dit « Me semble que je donnerais un prix à ce film-là pour le silence, tu sais, parce que tout est choisi. Ce qui est là pour une raison. » Et donc, ça rend ça beau, parce que quand tu regardes un film, puis tu vois tous les symboles derrière ça, c'est une... Je sais pas, pour moi, c'est vraiment deux écoutes de films, de types de films différents. Il faut vraiment être dans ce mode-là pour apprécier ça, C'est vraiment apprécier le cinéma pour le cinéma. Et souvent, des fois, ces films-là, en fait, peuvent être détruits par la critique, justement parce qu'on est tellement loin d'un Marvel. On est dans un film français, fait que ça passe bien, mais ces films-là, généralement, ils vont rejoindre des fois un public moins large, parce qu'on n'est pas justement dans l'action, on n'est pas dans la cohérence, on n'est pas dans quelque chose auquel on peut facilement concevoir que c'est vrai, qu'est-ce qu'on voit. Parce qu'il y a des erreurs dans ce film-là. Moi, j'ai remarqué certaines erreurs au niveau cinématographique, au niveau de la, justement, de la cohérence, au niveau de comment les personnages font leurs actions. Donc, mais quand tu te transfères dans la symbolique, tu te dis « Ah non, je comprends pourquoi ils ont fait ça, c'est pour représenter ça. » Même si c'est pas très cohérent au niveau de qu'est-ce que le personnage devrait faire, c'est cohérent au niveau... C'est pas cohérent, mais c'est symbolique.
Ouais.
Et c'est la beauté de ce film-là.
OK, donc un film symbolique à voir pour ces multitudes de détails.
À voir pour... Oui, c'est ça, pour vraiment apprécier le travail mis derrière ce film-là, le travail de réalisation, de scénarisation. Donc, je donne un 8 sur 10. C'est un très bon film. Il faut se mettre dans cette ambiance-là vraiment pour apprécier pleinement.
Oui, je ne sais pas si je serais dans cette ambiance-là en ce moment.
Dans une émission de radio, peut-être pas.
Non, mais surtout pas. Non, mais ces temps-ci, je parle...
ces temps-ci. Je pense que ça prend vraiment, effectivement, faut être reposé, faut être dans ce mode-là. Et quand on le sait d'avance, ça doit aider aussi.
Ouais.
Si, justement, qu'on a parlé des critiques qui arrivent là, si des fois, tu peux juste être dans un mood où tu le vois pas, puis que tu le vois pas pendant tout le film, puis aussi, ça peut aider à détruire ce film-là. Mais si tu le sais d'avance en rentrant, des fois, ça peut aider de dire, OK, je me mets là-dedans, je sais ce que je m'en vais voir, puis je suis capable de mieux l'apprécier. T'sais.
Exactement.
Excellent. Donc, 8.5, c'est ça?
8.
8 sur 10. Bon, excellent. Merci beaucoup, Mélina.
Merci.
De retour à Cinébrunch pour cette deuxième demi-heure. On vous propose de parler de... En fait, de vous critiquer deux films pour vous. Le film de François.
Oui, L'amour, tout simplement.
pas à retenir ce ton. C'est incroyable.
Sais pas pourquoi.
C'est phénoménal. Donc, dans quelques minutes,
pourtant,
François...
c'est un type tout simple.
Et un film qui sûrement va passer à l'histoire, hein, François?
Qui sait? Restez à l'écoute.
On va bien voir. Donc, c'est ça. Dans quelques minutes, François nous parle de ce film dont le nom ne veut entrer dans ma tête que par temps froid. Et de mon côté, quoique on est quand même par temps froid, là, ça devrait pas être un problème. De mon côté, mais avant d'arriver là, finalement, je vous propose de critiquer le film Fahim, film français, donc un drame biographique de Pierre-François Martin Laval, donc avec un nom doublement composé.
Et comme
je dis drame, mais en fait, il y a quand même pas mal de comédie à travers ce film-là. C'est un peu... Je dirais peut-être pas de comédie dramatique. C'est probablement pour ça qu'ils ont mis drame, là. Mais c'est plus léger qu'un drame-drame, là. Il y a des moments agréables, il y a des moments plus rough. Mais bref, tout ça est... C'est un film français. Qui sont dans ce film-là? Quels acteurs sont dans ce film-là? Oui, hein, c'est pas facile aujourd'hui. C'est pas facile.
Mais c'est correct, c'est par temps froid des fois.
C'est le temps froid, c'est simple. C'est le temps froid.
Donc, un bon acteur dans ton film.
Oui, donc Gérard Depardieu, Hamed Assad, un jeune comédien, Isabelle Nanty. Ce film-là est basé sur un fait réel et on écoute sans plus attendre, avant que visiblement je n'arrive plus à faire quoi que ce soit. On écoute donc la bande-annonce de Fahim.
Bienvenue à France Terre d'Asile.
Il y a un nouveau.
Tu devrais essayer les échecs, je suis sûre que ça te plairait.
Les échecs, c'est toute sa vie.
C'est un jeune immigré.
Il est super fort.
Il est un petit peu dur.
Tête d'huître.
Ça a pas de tête, une huître.
Je suis bourru, quoi.
Fais chier, oh!
Monsieur Muhammad, vous êtes en situation irrégulière sur notre territoire, monsieur.
Pour le championnat de France, imaginez les colonnes, les diagonales, visualisez. Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde.
Ça déchire.
Vous aviez un délai d'un mois pour quitter la France, vous partez en centre de rétention.
C'est dommage pour les championnats de France, mais tu connais le règlement, c'est bien.
Notre papier, c'est l'échiquier.
Donne-lui sa chance.
Alors oui, vous voyez, ça passe par toutes sortes d'émotions. Bande-annonce, franchement, beaucoup plus intéressante que celle de François, que vous entendrez plus tard.
Ça donne envie. Surprise,
oui, c'est ça, la bande-annonce donne envie de voir le film.
Oui, quand même.
Donc, voilà.
Donc, on parle d'échecs là-dedans.
Donc, je suis allé. On parle d'échecs, oui. C'est un film qui tourne autour du jeune joueur d'échecs, Fahim. En fait, Fahim et son père, qui ont fui le Bangladesh pour la France, et à leur arrivée à Paris... Ben, ils vont évidemment se battre pour obtenir l'asile. Ils vont se battre pour obtenir un droit de résidence. Mm-hmm. Ils vont chercher du travail, des choses comme ça. Évidemment, il y a des complications au niveau de la paperasse et de la bureaucratie gouvernementale. Il y a des éléments comme ça. Mais dans le fond, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Fahim, lui, son père lui a dit « On s'en va en France parce que t'es un incroyable joueur d'échecs. » On va te faire rencontrer un vrai professionnel des échecs, puis on va pousser ta carrière. Il y a une raison derrière ça aussi. Il était en danger parce qu'il était un bon joueur d'échecs dans son pays. Ouais. Oh. Donc, il menaçait d'être kidnappé, des choses comme ça. Il y avait... fait que toute cette dynamique-là qui est en fond, sa mère, la femme de son père et donc sa mère, est restée au Bangladesh. Donc, il y a toute cette folie-là, je dirais, de quitter son quotidien, de s'enfuir, et d'aller essayer de repartir sa vie en Europe. Franchement, c'est vraiment cool. Le concept est cool. Et de toute façon, c'est vrai. C'est une vraie histoire.
Oui.
Donc, tout ça, ça se passe plutôt bien. Là, évidemment, il y a la rencontre du professeur d'échecs, qui est interprété par Gérard Depardieu. Une espèce de d'homme, comment dire... très rough, très dur. Pour lui, c'est sérieux. Là. À un moment donné, il dit « Ah, les échecs, c'est pas un jeu, c'est la guerre.
» Comme dans le film qu'on avait vu, le film français, oui, c'était des concours oraux, ne débat, puis le prof était
avec
très
Daniel
sérieux.
Auteuil, oui. Mais le plus sérieux même que Daniel Auteuil l'était. Alors, on est dans quelque chose de quand même assez intéressant. Au niveau du film Fahim, donc j'irai pas plus loin dans l'histoire, allez le voir tout simplement, vous allez comprendre l'histoire un peu plus, mais
c'est généralement
je vais dire toute une généralité.
Le cas pour vrai de tous les films, généralement.
Même de toutes les histoires, en fait.
Oui,
en fait, de tout.
De tout.
Si ça vous intéresse, allez en prendre connaissance.
Oui.
Voilà, cessons de radoter. Donc, c'est un beau petit film, c'est sympathique. On apprend à connaître Fahim, son père, les différences culturelles entre le Bangladesh et la France qui sont quand même assez cocasses. Je dirais que ça, c'est la portion qui est plus drôle, sans dire que c'est une comédie. C'est la portion qui est plus légère, c'est drôle. Bon, on voit des jeunes, tu sais, ça se passe à Créteil, donc on est dans une cité en banlieue de Paris où, bon, on a vu un film récemment qui traitait de ces cités-là, mais là, on est comme dans un microbiome de joueurs d'échecs, ça se passe le jour. On est comme dans un autre monde, mais en réalité, c'est une réalité super pauvre, très multiculturelle. Et à travers ça, évidemment, il y a des jeunes qui essaient d'apprendre, tu sais, à parler comme en langage courant là-bas, donc en verlan un peu. C'est des moments qui sont drôles, qui sont sympathiques. Mais il y a des moments plus rough aussi, des choses plus profondes que ça. des moments de tension assez intéressants où on a peur, où on se questionne sur ce qui va se passer, où on espère que rien de grave va arriver. Sans être un spécialiste au niveau des échecs maintenant, sans être un spécialiste, j'ai vu quand même quelques films depuis ma naissance là, qui traitent d'échecs. Et c'est pas vraiment là que ça se passe dans ce film-là.
C'est un prétexte?
On n'est pas là. Tu sais, ben, okay. C'est la trame de fond du film, mais moi, j'ai trouvé que ça donnait pas tant le goût de jouer aux échecs, ce film-là. Il y a des films qui donnent vraiment beaucoup de goût de jouer aux échecs, mais celui-là, on dirait que...
C'est pas un film d'échecs.
Non, puis pour plein de raisons, je dirais, bon, les stratégies sont comme un peu hors contexte, ce qui fait qu'on peut pas vraiment apprécier le côté grandiose des décisions qui sont prises. On voit souvent juste des petites portions du board.
De la planche de jeu.
Ouais, la planche de jeu, ouais, effectivement. Des fois, c'est au tableau, en tout cas. Mais oui. Donc ça j'ai trouvé que le côté échec était peut-être pas si bon que ça. Maintenant, bon, c'est le prétexte.
Hein, c'est le côté humain, en fait.
C'est le côté humain, puis c'est le côté différence culturelle qui est vraiment fort dans le film.
Puis c'est le moteur de l'histoire, parce que sans les échecs, il serait pas allé en France.
Exact. Ben, en fait, probablement pas, mais dans tous les cas, le but de l'histoire, c'est lui qui veut faire des compétitions d'échecs. C'est ça qui se passe. Maintenant, le problème avec ça, c'est qu'on passe quand même beaucoup de temps autour des échecs. Ce qui est normal, vous me direz. Mais comme ça ne paye pas vraiment, en tout cas pas assez, on se retrouve à avoir le côté multiculturel qui est vraiment intéressant, mais qui n'est pas assez, il prend pas assez d'espace pour faire que ce film-là soit vraiment extraordinaire. D'un autre côté, tu ne peux pas réinventer l'histoire. Là. C'est simplement comment ça a été amené. Moi, j'ai trouvé que ça faisait en sorte que ça diluait un peu la qualité du produit. Et c'est pour ça que, à mon goût, il perd quelques points, donc, ce film-là. Mais sinon, on a un Depardieu qui passe assez bien dans son rôle de prof d'échecs recyclés parce qu'il n'a pas pu gagner une compétition quand il était jeune. Bon, maintenant, il prépare des enfants de 12 ans des compétitions. Puis le gars, il est vraiment passionné, mais il y a une pédagogie, évidemment, discutable parce qu'il est un peu frustré en dedans. tout ça, c'est un gros cliché qu'on est habitué de voir dans à peu près n'importe quel film de ce genre-là. Mais le classique, essayer de faire des enfants, les pros qu'on n'a pas pu devenir, ça semble fonctionner encore aujourd'hui au
mais
cinéma.
Mais c'est que c'est aussi une histoire vraie, donc j'imagine qu'il ne pouvait pas tant modifier la personnalité du professeur pour vu qu'on se base sur une histoire vraie. Si tu modifies la personnalité du professeur, tu modifies peut-être comment les événements se seraient produits.
Effectivement. Non, c'est clair, c'est clair. C'est cliché, mais c'est peut-être un peu grossi, évidemment. Je ne sais pas jusqu'où c'est fidèle exactement à l'histoire. Ouais. Le film est dédié au professeur qui est décédé il n'y a pas si longtemps.
OK. Même pas aux joueurs.
En fait, ça, c'est une histoire réelle qui se passe il y a quelques années. Là. Ça se passe il y a genre 5-6 ans, peut-être. Là. C'est pas une vieille histoire réelle. Là. Ça se passe il y a moins de 10 ans. Là.
OK.
Oh. Fait que c'est quand même impressionnant de voir ça déjà arriver au cinéma comme ça. Donc, je trouve ça le fun. Voilà, on finit quand même par s'attacher au personnage de Depardieu. Il n'est pas tout en méchant. Là. Il y a un bon fond. Ouais. Un bon fond, mais...
Parce qu'il y a un iPhone, peut-être. Non, non c'est pas un méchant.
Là, tu tombes avec ta nouvelle.
OK.
Ouais, attention, François.
Faut faire attention.
Oui. Donc, on a droit à des moments quand même touchants dans ce film-là, surtout la fin qui est assez intense là, en termes émotionnels. Mais le rythme est un peu inégal dans ce film-là. Ça, c'est un autre endroit où il perd un petit peu de points à certains moments. Sinon, pas grand-chose à dire, honnêtement, les acteurs, même les jeunes, sont très bons. Ça se passe plutôt bien. Je dirais, somme toute, c'est un très bon film. Je donne un 8 sur 10. Par contre, si vous tripez vraiment échec...
on va être déçu un peu.
Ouais, vous ne serez pas tant stimulé à ce niveau-là. Ça. Si vous êtes des vrais joueurs d'échecs, là, vous n'allez pas être stimulé du tout par les échecs dans ce film-là, je vous le garantis. J'en suis pas un, puis je l'étais pas. Fait que j'imagine pas quand on l'est. préféré à la recherche de Bobby Fischer, ces films-là qui donnaient vraiment le goût de jouer aux échecs. Moi, je me souviens, j'avais écouté ce film-là la première fois, puis j'ai comme... Après, là, je voulais jouer aux échecs, là, tu sais, j'étais motivé, là, j'ai cherché mon jeu d'échecs, puis c'était le... Ouais. Il y a des films qui donnent le goût, il y a des films qui donnent pas le goût.
Ouais.
Mais c'est pas ça. Un film d'échecs.
Ben, en tout cas, ça a toutes les apparences d'un film d'échecs.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
C'est ça.
Mais
même sur l'affiche, je pense pas que les échecs aient été mis de l'avant non plus.
Je pense que oui.
C'est possible, oui.
Ouais. Donc voilà, c'était ma critique donc, du film Fahim, qui est toujours au cinéma. Vous pouvez aller voir ça, c'est quand même intéressant, dans certains cinémas. C'est intéressant, j'ai beaucoup de plaisir à voir ça. Simplement, bon, évidemment, c'est pas parfait, mais c'est agréable.
Hein? Mais tout à fait.
C'est ce qu'on aime, voilà.
Mais c'est touchant.
Mais oui, c'est touchant, c'est beau.
Thank you.
Et François, l'amour tout simplement, hein, le nom, je m'en souviens enfin du nom de ton
oui,
film.
Oui, exactement.
Tu l'as dit avant d'être sûr que ça quitte ta mémoire.
Bon, pas dans l'extrait musical, j'ai demandé à François de me le répéter une dernière fois, mais ça compte pas.
Mais moi, je l'ai décrit, Jim, c'est plus simple. Hein.
L'amour tout simplement.
Je n'ai pas une mémoire, j'ai un crayon. Voilà. Mais donc, l'amour tout simplement, Ordinary Love, film qui vient de sortir au cinéma, parce que sinon, on n'en parlerait pas. Voilà.
Ben, tout ça promet.
Ben, tout à fait, effectivement.
On sent que ça va être très bon, ce film.
Et donc, c'est un film qui, principalement, a deux acteurs qu'on voit dans le film. Liam Neeson et Leslie Manville. Manville?
J'aurais tendance à dire que c'est Manville.
Manville, hein, c'est ça.
C'est le Leslie qui me fait croire ça.
Oui, ben... Hein,
ça veut dire Anita, là, j'aurais dit.
Sherlock Holmes de toi. sinon, on voit aussi deux autres acteurs, David Wilmot et Amit Shah. Mais principalement, là, c'est Liam Neeson et Leslie Manville qui sont là. Et là... J'avais une petite nouvelle pour les fans de Liam Neeson avant de commencer ma critique, en fait, parce que c'est un acteur, évidemment, assez connu, évidemment.
Star Wars épisode 1 et 2.
Tout à fait.
Il était dans mon film.
En fait. Oui, en fait.
Il était dans le film que j'ai critiqué il y a un mois.
Oui, effectivement.
La section rythmique.
Il était dans un pas très bon film, dans un train. Aussi, également.
Il était dans Taken.
Il était dans le film qui se passe comme dans le train, mais dans l'avion.
Oui, je me souviens de quand tu as vu ce film-là.
Oui,
t'as dit c'est la même chose que le film qui se passe dans l'avion, mais c'est dans un train.
Ah, quand même. Mais donc, Liam Neeson qui a été dans des films, dans le fond, de super-héros, d'un peu plus... Dans Star Wars, il était là.
Il y a eu
là.
Un truc aussi avec un dragon.
Il était dans The Dark Knight. Il était, dans le fond, Ra's al Ghul, dans la trilogie de Christopher Nolan. Donc, il a joué quand même dans des choses un peu de super-héros ou sci-fi un peu. Lui, dans le fond, il a dit qu'il ne revêtrait plus...
Il veut plus faire ça.
Le truc de super-héros, lui, il sera plus là-dedans.
Ah. Et as-tu tendance à penser qu'il aurait peut-être dû rester là, finalement?
Non, mais ben, en fait, il va dire, je suis honnête avec vous, je ne suis pas un grand fan de ce genre de film-là. Il a dit, tu sais, je pense que Hollywood est capable, avec les prouesses techniques, de montrer vraiment des choses vraiment le fun, j'admire ça.
Il se magasine un rôle dans un film de Scorsese, lui-là.
Mais il a dit, tu sais, oui, c'est vrai, ouais. Peut-être ça. Mais il dit, j'ai aucune envie d'aller à la salle de sport pendant 3 heures chaque jour pour me faire gonfler, me serrer dans une combinaison en velcro avec une cape.
C'est vrai que ça doit pas être le fun pour les acteurs.
Non, mais, c'est sûr. Ben, oui, non, parce que
c'est un super-héros.
Ça dépend à quel âge aussi, il est quand même rendu à 67 ans.
Oui, mais attends, t'es un super-héros, mais t'es sur green, t'es sur écran vert.
Toi, quand tu c'est pas toi qui joues, parce que quand t'es masqué, c'est quelqu'un d'autre.
Non, mais toi, tu vis moins, tu sais, aussi, quand t'es
sur un écran vert. Le monstre, il est pas vraiment derrière toi. Derrière toi, il y a un écran vert, puis tout le monde est habillé en vert, puis c'est pas...
Oui, mais tes petits-enfants, ils te regardent comme ça quand tu rentres chez toi.
Oui, bien, tout à fait,
sans compter les exigences physiques qui sont faites autant aux hommes qu'aux femmes pour ces rôles-là. Ben, exige des prises de masse musculaire, puis non, c'est
effectivement.
Pas...
Mais ça demande aussi des prestations physiques aussi quand même assez intéressantes. Et donc, c'est quand même souvent dans Taken, c'est des films souvent où ça demandait quelque chose physiquement, des rôles quand même... difficile physiquement. Donc là, il a dit qu'il ne voulait plus vraiment aller là-dedans. Il a dit « J'ai participé à La menace fantôme il y a 22 ans et j'aimais ça parce que c'était original et nouveau. Je jouais avec des balles de tennis qui allaient finalement devenir des petites créatures poilues. C'est intéressant pour le jeu d'acteur d'essayer de faire paraître ça réel, mais c'était potentiellement le dernier. C'est assez épuisant de faire ce genre de film-là. Donc pour lui, c'est potentiellement fini, du moins de ce qu'on semble croire selon...
Écoute, j'ai une certaine déception à entendre ça, François, mais
je trouve ça bien.
Non, mais je comprends pour lui, sauf que je suis triste pour moi, parce que j'espérais toujours un retour du personnage de... C'est quoi son nom déjà? Dans Star Wars.
Ouh, ben voilà.
J'ai un blanc de mémoire total.
C'était un très bon moment radiophonique.
Mais c'est fidèle à moi-même aujourd'hui, tout à fait. Avec ma mémoire ridicule.
Donc, tout ça pour dire que Liam Neeson a souvent été dans des films d'action. Et là, ici, on se retrouve dans un film, L'amour, tout simplement, Ordinary Love. Un film assez...
un film ordinaire.
Oui, ben en fait, je trouve ça intéressant que tu amènes le point. En fait, je trouve ça intéressant qu'on parle parce que dans L'amour, tout simplement, je trouve que ça fesse moins que dans le mot ordinaire. Le mot ordinaire, je trouve, est intéressant. On va revenir plus loin dans la critique, mais on garde ça en tête.
Ben oui, certainement. Bon, hein?
Alors, on va lire un petit peu le synopsis. Un film loin d'être dans l'action, comme ce que Liam Neeson est peut-être... Donc, les grands fans de Liam Neeson vont peut-être être déçus. On s'en va ailleurs.
Je sais pas si y a des gens qui sont arrivés déguisés en personnage de Star Wars pour le film.
Ah, je sais pas. Peut-être pas. C'est peut-être un petit peu ça. Oui. Donc, synopsis rapidement. Joan et Tom sont mariés depuis de nombreuses années, un couple de tous les jours avec un amour qui est remarquable. Il y a une facilité dans cette relation-là qui ne vient qu'à ceux qui vivent qu'une vie ensemble.
Un peu comme la relation d'amour entre les auditeurs de Ciné Brunch et leurs animateurs.
Tout à fait. Très bien dit.
On est dans le pompeux, là. Bon.
Mais voyons, Jim, accepte les fleurs!
Oui, j'attends toujours des preuves de cette information.
Mais lorsqu'elle reçoit un diagnostic de cancer du sein, dans le fond, là, on voit dans le fond le traitement qui est mis en lumière et dans le fond, le dévouement infatigable qui va devoir être mis dans cette relation-là. Ils doivent trouver l'humour et la grâce pour survivre à l'adversité dans ces épreuves-là, dans le fond, qu'ils vont devoir parcourir. Ça semble un film tout à fait joyeux. Hein?
Voilà. Je ne dirais pas à quoi ça ressemble non, de
c'est
mon ça. Côté.
Évidemment, oui. c'est un drame, hein, évidemment. Et pour comprendre l'amplitude du drame, on peut écouter la bande-annonce.
You can read me
anything. Je ne peux pas lui dire combien j'ai peur. Ma vie doit suivre son cours normal. J'imagine que c'est mon rôle dans tout ça.
J'avais l'impression que si je traversais cette épreuve, ça changerait quelque chose en moi. Mais je crois que je suis toujours la même. J'ai pas envie de changer.
Il n'y a pas un seul moment où je ne serai pas avec toi. Je vais te torturer. Tu le réalises, pas vrai?
C'est ce que tu fais chaque jour.
Alors, cette bande-annonce, hein, que dire, me semble d'une platitude nez.
Ben, en fait, que dire...
Toi qui connais beaucoup les bandes-annonces, là.
Oui,
est-ce que tu as regardé la bande-annonce avant d'aller voir le film?
Oui.
Il était quand même allé. Bon, c'est bon signe. Ça doit être moi qui ai déréglé, là.
Non, mais ça me... pas que ça me tentait pas d'aller voir le film quand j'ai regardé la bande-annonce, mais... mais dans le sens où je savais que ça allait être un film... différent et pas nécessairement un 10. Ben, du moins, quand je regardais la bande-annonce, c'est pas ça que je me suis dit. T'sais.
Mais tu t'es dit, au lieu d'aller voir un film avec Harrison Ford puis un chien en CGI,
des fois, faut faire des
je
choix,
vais aller
Jim.
Voir un film sur la lenteur avec Liam Neeson.
Je trouvais que c'était un film un peu différent de ce que j'allais voir récemment. Donc, je me suis dit, ça va être intéressant d'aller un petit peu ailleurs. Des fois, c'est ça aussi, on en voit beaucoup, puis c'est intéressant d'aller dans des propositions différentes.
Après je suis content que tu te sacrifies pour aller voir ces choses-là.
Après ça, est-ce que c'est nécessairement des propositions qui fonctionnent? On va le voir. En fait, le premier mot qui m'est venu en tête quand j'ai vu ce film-là, c'est le mot « sec ».
Sec?
Oui. C'est un film...
C'était ta bouche à ce moment-là quand t'es
Non.
Petite pastille à la SAQ.
Je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai analysé après ça, je me suis dit pourquoi. Le seul mot que j'ai en tête, c'est le mot sec. En fait, c'est que c'est justement le mot ordinaire, et bien, c'est... On voit vraiment des discussions qui sont banales, on voit des moments de la vie qui sont vraiment... qui est vraiment comme ordinaire. On dirait que c'est juste... C'est pas un documentaire, là. Et c'est pas fait tant que ça à la manière d'un documentaire, mais à la limite, presque. Mm-hmm. On dirait qu'on voit des bouts de films qu'on dit « Ben, OK, c'est la vie. Mm-hmm. »
Des trucs qui vont être dans des ellipses d'habitude.
On a des ellipses, justement. Mais là, tout le film...
C'est sûr que c'est l'inverse, les ellipses. C'est comme entre ces moments-là de lenteur.
C'est ça.
Fait on saute l'action, en fait.
C'est ça. Ce n'est que les moments qu'on saute, généralement. Puis... C'est donc bizarre parce que d'un côté, c'est positif parce que tu te dis, ben, c'est réel. Le jeu des acteurs est sublime, est intéressant, est assez intéressant. Et je pense qu'on peut aller le voir pour ça. Justement, cette performance-là est assez intéressante. Mais c'est ça qui est spécial avec ce film-là, c'est que tu te dis, tu es complètement... En tout cas, moi, j'étais vraiment dans le film. J'étais transporté par le film parce que c'est réel, tu sais. Mais en même temps, c'est d'une platitude à certains moments. tu sais.
Ouais.
Mais c'est comme d'écouter une vraie vie, tu comprends? Fait que je trouvais ça étrange parce
mais
que.
Je pense qu'il y a des vraies vies plus intéressantes que d'autres, tu sais.
Oui, c'est sûr. Mais là, comme on parle du cancer du sein, donc il y a des opérations,
ça permet de vivre des. Ouais,
ça permet de vivre un petit peu ce que ces gens-là, j'imagine, doivent vivre et passer au travers, mais en même temps, tu te dis, écoute, on est là, on les regarde manger, puis OK. Tu sais, c'est étrange à quel point tu te dis, c'est vraiment banal, puis on devrait peut-être pas voir ça normalement dans un film, mais en même temps, tu te dis, quand t'embarques là-dedans, à un moment donné, quand tu te dis, c'est ce genre de film-là, c'est cette proposition-là, t'embarques là-dedans, puis tu te dis, ben écoute, je suis sorti de là en ayant vécu un petit peu peut-être ce que ces gens-là et ce que ces femmes-là vivent et ce que les gens atteints de maladies, de cancers vivent. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme proposition. C'est un petit peu le feeling que j'ai eu que quand je vais voir un documentaire, quand je suis sorti de là, je me sentais mal un petit peu sur ma chaise, autant parce qu'on n'est pas habitué de voir des scènes aussi banales des fois, mais aussi parce qu'il y a des moments assez difficiles à voir parce que justement, c'est le côté...
Oui, mais en même temps, il y a des films de maladies, il y en a plein, là, c'est pas nécessairement... Oui, mais l'huile de Lorenzo, là, c'est pas plate de même. Là.
Non, mais on va pas justement dans le sensationnalisme puis dans le gros... Tu sais, des fois, dans les films comme ça, de maladies, on s'en va vraiment intensément dans l'émotion, là, puis on va dans l'intense.
Oui.
Là, on va pas là. On va dans le côté l'homme qui sait pas trop quoi dire. Des fois, il s'engueule un petit peu, mais pas trop parce que justement, il s'aime. Et c'est bien fait, mais c'est vraiment la vraie vie, tu sais. Puis il y a des beaux moments, puis des belles petites scènes où on voit un petit peu des métaphores ou des mains, comment ils sont placés, ou comment ils font leur routine qui change un petit peu, puis comment c'est affecté. Puis ça nous fait comprendre un petit peu l'évolution entre l'homme et la femme dans le couple. Mm-hmm. Donc, je trouve ça assez intéressant là-dessus. Donc, je suis comme un petit peu mélangé compte tenu de ma critique.
Mais au niveau la proposition, moi.
C'est une proposition intéressante et différente.
Oui. Après, on n'est toujours pas dans le divertissement, par contre, là, on s'entend.
Ben, c'est ça, on n'est pas ça. Vraiment dans le divertissement. Puis on n'est pas là. On est vraiment dans un film où c'est quasiment un documentaire, puis... Il faut s'attendre à quelque chose de vraiment différent. Mm-hmm. Mais encore là, c'est ça, la proposition est intéressante. Puis je pense qu'elle est quand même bien faite, puis les acteurs jouent bien. Donc, je ne peux pas vraiment le pénaliser pour ça, mais il faut s'attendre à ce genre de film-là. Puis c'est ça. Il y a mille et une raisons pourquoi on veut aller voir des films, puis on en a parlé en début d'émission. Puis je pense que ça, c'est un autre genre de film. C'est pas tout le monde qui est prêt à ça, puis qui veut être ça, puis on va se sentir mal sur notre chaise.
Mais ça va peut-être rejoindre des gens aussi qui vivent ou qui sont vraiment plus proches personnellement de cette situation-là. Et peut-être que pour toi, c'est quelque chose qui venait moins te chercher personnellement.
Mais en même temps, je trouvais ça intéressant de voir ça pour essayer de me dire « Hey, ces gens-là vivent cette réalité-là. »
C'est ça qui est intéressant, oui.
Puis de voir justement, c'est peut-être moins hollywoodien justement, en disant « C'est peut-être plus ça que les gens vivent. » Puis ça, je trouvais ça intéressant d'avoir ça. Donc, je donne une note de 7. Intéressant. Okay. Une proposition intéressante. Donc, si vous êtes prêts à ça, allez-y. Mais c'est pas un film. Tu sais, des fois, tu dis « Ah, l'amour, tout simplement, ça va être un film cute. » Peut-être pas tant que ça.
Le public dans la salle, pour par curiosité, avec quel âge?
Il était absent, mais... Non, il y avait pas grand monde, mais il était un petit peu plus âgé, évidemment. Okay. Il était un petit peu plus âgé quand même. Mais il y avait pas grand monde.
Bon, mais des fois, il y a la question du public cible aussi, là, c'est pour ça.
Ouais.
OK, bon, mais intéressant. Merci beaucoup, François. Donc, un 7 sur 10 pour ce film. Et c'est déjà la fin de cette émission. Rapidement, je vais vous dire que c'est la semaine de relâche qui commence. Mm-hmm. Et comme on s'y attend chaque année, les cinémas ramènent des films familiaux qui n'étaient plus à l'affiche. Et ici, à la Maison du cinéma au centre-ville de Sherbrooke, vous pourrez retrouver, encore une fois cette année, les matinées de la relâche à 4$, donc du 2 au 6 mars. Vous pourrez revoir les films Jumanji, Le prochain niveau, Jouer avec le feu, Playmobil, le film, La famille Adams est abominable. Là-dedans, il y a des films qui peuvent être abominables.
Voilà.
Donc,
éditorial,
c'est ça. Les films commencent à 10h, premier arrivé, premier servi. Voilà, c'est tout pour l'émission. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci Mélina, merci François.
Merci
à toi, Jim.
Merci à tous nos auditeurs d'avoir été là. On se retrouve donc la semaine prochaine, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter d'autres épisodes en balado-diffusion sur notre site web cinebrunch.com ou encore une fois sur votre téléphone intelligent. Sinon, on est en rediffusion le mardi à la même heure, donc samedi 11h, mardi 11h. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde.
Bonne semaine.
Bonne semaine.